classique, vous avez dit classique. Une émission présentée par Laure Schnapper.
Bonsoir à tous. À l'occasion de l'exposition consacrée au Second Empire au musée d'Orsay et à l'occasion de la reprise à l'Opéra Bastille pendant le mois de novembre des Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Robert Carsen, je vous propose de consacrer cette émission à Jacques Offenbach, dont j'aimerais vous faire entendre ce soir quelques œuvres qui révèlent un aspect un peu méconnu de sa personnalité. Alors Jean-Claude Dion a consacré à Offenbach une excellente biographie en 2000 chez Gallimard que je ne saurais trop vous recommander. Il retrace dans les moindres détails la carrière du jeune virtuose du violoncelle qui quitte Cologne, sa ville natale, à l'âge de 14 ans avec son frère Jules pour rejoindre Paris en 1833, donc au début de la monarchie de Juillet, Paris où il va mener la carrière qu'on sait, à la fois comme compositeur et comme directeur de théâtre. Alors, comme nombre de ses airs ont été repris ensuite par des artistes de Montmartre, on a tendance à associer Offenbach à la Belle Époque, alors qu'il est mort en 1880 et qu'il a commencé sa carrière, je le disais, sous la monarchie de Juillet et que son succès s'est développé pendant tout le Second Empire et au début de la Troisième République. Alors, rappelons que Jacques est né Jacob. Il est le septième enfant, des huit enfants du cantor de la synagogue de Cologne, Isaac Offenbach, qui était originaire d'une petite ville voisine, Offenbach am Main, sur le Main, ce qui incite son père à choisir ce patronyme vers 1810, selon le décret napoléonien, puisque la Rhénanie était sous domination française jusqu'en 1814. Alors Jacques s'amusera d'ailleurs, avec l'humour qu'on lui connaît, à signer Jacques Haute-Cologne, évidemment comme Offenbach. Alors toute la famille est musicienne, le père composait de la musique pour les synagogues et puis sa mère chantait. Enfant, Jacques tombe sous le charme du violoncelle et va jouer dans les tavernes avec son frère Jules, qui est violoniste, pour arrondir les fins de mois de la famille. En 1833, le père décide d'accompagner ses deux fils musiciens à Paris pour parfaire leurs études musicales. Paris est en effet la seule ville à l'époque où un juif peut faire carrière sans difficulté. Alors, Jacques est admis au conservatoire le 30 novembre 1833, mais pour subsister, il parvient à se faire engager avec son frère pour la formation du chœur de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. Il quitte pourtant la classe de violoncelle au bout d'un an et, pour la même raison, est exclu de son poste à la synagogue. En effet, pour vivre, il joue du violoncelle dans les théâtres du boulevard du Temple, ce qu'interdit absolument le règlement du conservatoire. En plus, il joue le samedi et perd aussi son poste au consistoire, ce qui peut expliquer que, 10 ans plus tard, il ait eu moins de scrupules peut-être à se convertir au catholicisme. En revanche, il se familiarise avec l'opéra comique français, celui de Boieldieu, Aubert, Adolphe Adam, Halévy, en jouant dans l'orchestre de l'ambigu comique et surtout du théâtre de l'opéra comique, ce qui l'inspirera évidemment pour la suite de sa carrière. Alors en parallèle, il donne toujours comme violoncelliste un concert annuel jouant ses propres compositions et il publie notamment une série de duos de violoncelle qui sont encore aujourd'hui joués par les violoncellistes et je vous propose que nous entendions tout de suite une de ses pièces pour violoncelle qui révèle un versant un peu inattendu de sa personnalité. Il s'agit d'une très belle élégie pour violoncelle et piano intitulée « Les larmes de Jacqueline » qui date de 1850 et je vous propose de l'entendre par Misha Maïski.
Thank you.
Nous entendions les larmes de Jacqueline par Jacques Offenbach. Alors Offenbach composait aussi des mélodies, il le faisait déjà à Cologne, enfant. Et arrivé à Paris, il met notamment en musique plusieurs fables de La Fontaine. Et je vous propose sa savoureuse vision d'une des plus célèbres fables, La cigale et la fourmi, par Bruno Laplante, baryton, et Marc Durand au piano.
Cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, ce petit morceau de mouchou de vermisseau, elle a la crie famine. Chez la fourmi, sa voisine, chez la fourmi, sa voisine, elle a la crie famine. Chez la fourmi, sa voisine, la priant. Quelques grains pour subsister, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle, avant nous. Un animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous? Que faisiez-vous au temps chaud? Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Et bien dansez maintenant. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Et bien dansez maintenant. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Et bien dansez maintenant. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Et bien dansez maintenant. Dansez maintenant.
Offenbach est un travailleur acharné. Il compose des valses aussi pour les concerts promenades à la manière de Mozart, des comédies mêlées de chants, des duos bouffes comme Le Moine bourru et Meunière et fermière. Jean-Claude Dion a listé plus de 100 musiques de scène et ouvrages pour la scène avec diverses appellations comme opéra comique, opéra bouffe, opéra bouffon, opérette, vaudeville, bouffonnerie musicale et tant d'autres. Parfaitement inconnu, pas enregistré, jamais monté. Alors, on peut citer Le Songe d'une nuit d'hiver, Le Violonneux, Madame Papillon, Le Soldat musicien, Jeanne qui pleure et Jean qui rit, La Diva, etc., etc. Alors, le chœur et l'orchestre de la Hochschule de Francfort ont enregistré en 2003 un opéra bouffe en trois actes sur un livret de Meillac et Halévy intitulé Le Château à Toto, qui a été représenté sur la scène du Palais Royal en 1868, période où le compositeur fait feu de tout bois avec 15 créations en 2 ans et demi, notamment la création de la Péricole, la Duchesse de Gerolstein, qui date de l'année précédente du Château à Toto, et explique peut-être que l'œuvre n'ait pas eu le succès escompté. Alors on se moque ici de deux familles de la noblesse normande qui se déchirent depuis des siècles, les deux Crécy-Crécy et de la Roche-Trompette. Alors Jeanne de Crécy-Crécy est amoureuse d'Hector de la Roche-Trompette, dit Toto, qui, ruiné, doit vendre son château. Et après moult péripéties et déguisements de toutes sortes, il finira par épouser Jeanne et garder ainsi son château. Alors je vous propose que nous entendions l'ouverture qui présente différents thèmes qui seront pris ensuite dans l'ouvrage. Alors on remarquera la clarté de l'instrumentation très française, en particulier le solo de flûte qui annonce déjà Bizet dans ses suites de l'Arlésienne qui seront créées plus tard. Au théâtre, 4 ans plus tard, au théâtre du Vaudeville.
Thank you.
Alors après cette ouverture du château à Toto, nous finirons par l'ouvrage le plus célèbre de Fonbach, qui est, je le disais, qui est joué en ce moment sur la scène de l'Opéra Bastille, Les Contes d'Hoffmann. Alors Les Contes d'Hoffmann, c'est la dernière œuvre d'Offenbach, considérée comme la plus sérieuse, la plus aboutie, comme si Offenbach, en choisissant de mettre en scène l'écrivain Hoffmann et en s'inspirant du Faust de Goethe, voulait prouver qu'il était capable d'écrire aussi dans le genre sérieux, un petit peu comme Rossini l'avait fait en 1830 avec son dernier opéra Guillaume Tell. Pourtant, le compositeur n'a pas eu le temps d'en finir l'orchestration puisqu'il est mort en octobre 1880 en plein milieu des répétitions. On jouera quelques extraits de l'œuvre à ses obsèques qui ont lieu à l'église de la Madeleine devant une foule considérable, environ 3000 personnes. Alors l'opéra est créé à l'Opéra Comique quelques mois plus tard, en février 1881, et c'est un succès qui ne se démentira pas puisque aujourd'hui, les Contes d'Hoffmann est l'opéra d'Offenbach le plus joué. Pourtant, de son vivant, Offenbach n'avait jamais eu l'honneur qu'on lui fait aujourd'hui de jouer ses ouvrages sur la scène de l'Opéra de Paris, qui n'admettait pas ce genre qui appartenait au genre de l'opéra comique, surtout quand il était aussi subversif que celui d'Offenbach. Alors, nous entendrons pour finir le début de l'opéra, qui présente une très courte introduction de l'orchestre, qui débouche rapidement sur le chœur. Nous l'entendrons par l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé par André Cluytens. Avec le début des Contes d'Hoffmann, prend fin cette émission consacrée à Jacques Offenbach. Je vous dis à dans 2 semaines.
Classique, vous avez dit classique, une émission présentée par Laure Schnapper.